Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Amen. Ça va, vous allez bien? Plaisir de vous voir, plaisir de prendre ce temps dans la présence de Dieu. Et c'est vraiment un honneur et un plaisir aussi de partager la parole de Dieu. Ce matin, on s'est pas concerté avec mon épouse. Et puis en arrivant ici, j'ai vu que j'avais mis une chemise jaune. Donc rien à voir, aucune allusion avec un certain événement sportif qui peut avoir lieu en ce moment. Je veux pas le citer, hein, ça commence par le Tour et ça finit par De France. Mais je réalisais que finalement, notre champion, celui qui a le maillot jaune, c'est notre Seigneur. C'est lui qui a gagné. En plus, il a déjà gagné et c'est bien de se mettre dans sa roue. Et vous savez, la vie chrétienne, c'est comme le vélo, vous savez? Vous ne saviez pas? Ça veut dire que quand on s'arrête d'avancer, on tombe. Donc c'est vraiment une grâce pour nous de continuer à bouger. Voilà. Matin, je voudrais vous partager un thème. On peut mettre la slide, peut-être elle est déjà. Voilà. Le titre du partage ce matin, et au-delà d'un partage, me réjouis de ce que Dieu fait dans nos cœurs. Il continue de le faire, il continue d'agir. Les bienfaits du souvenir, mythe ou réalité. Le thème, la thématique qu'on va partager ce matin et on continuera dimanche prochain, c'est l'objectif, c'est de bien réaliser la nécessité de mémoire pour vivre le aujourd'hui et demain différemment. Je le redis, le thème du partage ce matin, c'est la nécessité de mémoire pour vivre maintenant et demain différemment. La nécessité de mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le partager sur les deux dimanches. Et j'ai pris ça, vous avez déjà peut-être entendu cette expression, le devoir de mémoire. Devoir, pendant les vacances, je n'avais pas trop envie de l'utiliser, mais plutôt la nécessité, l'importance. La référence de base pour ce matin, c'est Deutéronome 8, versets 1 à 20. Donc c'est le texte de base. Et le texte de base pour la semaine prochaine, ça sera le texte de 1 Corinthiens 11 et également Luc 22, quand Jésus dira « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc ça sera pour la semaine prochaine. Donc, à votre avis, ça ne fonctionne pas, si tu peux juste, s'il te plaît, passer la slide. Peut-être c'est pas allumé. Oui, ce n'était pas allumé, désolé. Non, on va revenir. Voilà, à votre avis, se rappeler, est-ce que c'est quelque chose, se souvenir, est-ce que c'est quelque chose de positif ou est-ce que c'est quelque chose de négatif, à votre avis? Et on va voir, pardon?
Ça dépend.
Donc effectivement, se souvenir, se rappeler, ça peut effectivement être positif ou négatif, tout dépend ce que l'on a vécu. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est Huxley qui a dit, les souvenirs de l'homme ou de la femme constituent sa propre bibliothèque. Donc ce matin, on va voir dans notre propre bibliothèque quels sont les chapitres que l'on peut se rappeler et qui peuvent susciter en nous la joie. Et puis, il y a d'autres chapitres, il y a d'autres souvenirs qui peuvent être plus douloureux, qui peuvent amener peut-être de la tristesse, ça peut amener aussi de la colère. Ça peut amener un certain nombre de sentiments qui sont encore très vivaces. On voit dans l'histoire, par exemple, quand on entend le témoignage, par exemple, de personnes qui ont vécu des traumatismes, on pense à l'accident du pont de Gênes, par exemple, qui s'est passé il y a quelques temps, quand on entend les témoignages, c'est comme si l'événement s'était passé hier. Et même encore plus loin, on voit par exemple des vétérans de la Deuxième Guerre. Moi, ce qui me frappe des fois quand je les entends, d'un seul coup, il y a des sentiments qui remontent et tous ils disent mais c'est comme si je le vivais hier. Ils ont vécu ça à l'âge de 20 ans et ils en ont 80, 90 et ils vivent cela, ça remonte. Le souvenir est quelque chose de douloureux. Et puis, on a parlé de la nécessité de mémoire. Je vais le répéter plusieurs fois, nécessité de mémoire pour vivre aujourd'hui et demain différemment, sous-entendu d'une manière positive. Et quand on parle dans l'histoire du devoir de mémoire, souvent, on pense par exemple évidemment à des événements comme la Shoah, comme d'autres choses, des événements tragiques. On se dit, mais les générations passent et on a tendance à oublier l'histoire. On a des fois tendance à oublier ce qui s'est passé dans le passé. Et pourquoi est-ce important de se rappeler, par exemple, dans l'histoire? Pourquoi c'est important de se souvenir? Pourquoi c'est important? Parce que, naturellement, de génération en génération, on a tendance, tout simplement, à oublier. Et je me rends compte déjà, on peut regarder une photo, des fois on peut avoir, vous savez, des odeurs, ça peut être une musique qui nous rappelle et qui nous rappelle le passé, qui nous rappelle une expérience. Moi, des fois, quand je regarde les photos de nos enfants, ce que l'on a fait, et je me dis, mais ah ouais, on a fait ça, quoi. Et pourtant, c'est pas si loin. Alors, bien sûr que peut-être avec l'âge, on perd un peu la mémoire, mais quand même, on a tendance à oublier vite. Et c'est la raison pour laquelle on a ce journaliste américain. Je vous conseille son livre. C'est un livre qu'il a écrit il y a 2 ans. C'est un journaliste, un écrivain américain. Et son livre, c'est « Résister aux mensonges ». Et il écrira sur la réalité, il est chrétien, et il va vraiment faire une étude historique, sociologique, des temps dans lesquels nous sommes. Et il a rencontré beaucoup, beaucoup de personnes, notamment dans l'ancien bloc soviétique. Alors on est dans l'histoire, on n'est pas dans la politique, on est dans l'histoire. Et il a rencontré des hommes et des femmes qui ont vécu la période du totalitarisme. Et il décortique le phénomène. Et il dira la chose suivante. Il dira la mémoire, je vais mettre mes lunettes, la mémoire, qu'elle soit historique ou autre, est une arme de légitime défense culturelle. L'histoire, ce n'est pas seulement ce que l'on peut lire dans les manuels, elle se trouve aussi dans des histoires que nous nous racontons sur ce que nous avons été et ce que nous sommes. Elle se trouve dans la langue que nous utilisons, dans les choses que nous fabriquons, dans les rituels que nous observons. L'histoire, c'est la culture, tout comme le christianisme. Se désintéresser de la tradition, voire y être hostile, c'est se rendre à ceux qui, depuis leur position de pouvoir, veulent légitimer un nouvel ordre social et politique, sous-entendu déchristianiser. Pour la survie du christianisme, il faut que nous ayons à l'esprit l'importance critique de la mémoire et le rôle que joue la culture dans sa préservation et sa transmission. Il nous faut raconter nos histoires par la littérature, par le cinéma, le théâtre ou tout autre moyen, mais il nous faut aussi manifester notre mémoire culturelle, j'oserais dire même cultuelle, par des actes communautaires dans le deuil, la célébration, souvenir solennel, joie festive. Et il ajoutera un peu plus loin, tout acte collectif qui relie la communauté à son histoire sacrée et séculière de manière vivante, c'est un acte de résistance à la pensée selon laquelle le passé n'a pas d'importance. Et là encore, sous-entendu que toutes les valeurs de la Bible, toutes les valeurs de la parole de Dieu, eh bien, sous-entendu, n'ont plus de valeur. Et nous osons affirmer ce matin que les valeurs de la parole de Dieu, même si elles sont anciennes, sont toujours d'actualité. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu a toute autorité. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous croyons que Dieu est encore vivant et que sa parole est encore efficace pour nous aujourd'hui. Amen. Pourquoi je dis cela? Ça, on est dans le domaine un petit peu historique, dans son livre que je vous vraiment recommande. À un moment donné, il donne cet exemple. C'est dans le champ de tir de Butovo, donc c'est dans un épisode qui s'est passé du temps de l'URSS, durant les purges staliniennes. Et pendant cette période-là, il y a eu des milliers et des milliers de morts, des milliers de personnes qui ont été exécutées. Et ce journaliste s'est rendu compte en allant sur le terrain Et en interviewant des hommes et des femmes, il s'est rendu compte, en entendant les anciens, que cette histoire-là a complètement été occultée. Et il y a des générations d'enfants qui n'étaient absolument pas du tout au courant de l'histoire. Et il y a des hommes et des femmes, et notamment des personnes, des chrétiens, qui ont dit, mais même si c'est douloureux, c'est important de se rappeler la nécessité de mémoire. Pourquoi ? Non pas pour amener le désordre, non pas pour amener la haine, non pas pour amener des conflits, mais simplement pour rappeler la vérité de l'histoire. Et de dire que quand il y a le mensonge qui amène des assassinats, des meurtres, à ce moment-là, eh bien on a besoin d'apprendre du passé. On a besoin d'apprendre. Pourquoi c'est nécessaire de se rappeler ? Parce que nous avons fortement besoin, pas seulement individuellement, mais également d'une manière culturelle, sociale, collective, de ne pas reproduire les erreurs du passé. Pourquoi on dit cela ? Parce qu'aujourd'hui, si on fait une étude un peu sociologique du monde dans lequel nous sommes, bien sûr que le monde a changé, la société a changé, nous savons que la parole de Dieu ne change pas. Et le défi pour nous en tant que chrétiens, c'est de dire, mais comment on vit la vérité de la parole de Dieu dans un monde qui n'est plus chrétien. Et pour ceux qui sont familiarisés avec un certain nombre de notions aujourd'hui, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Nous vivons par exemple ce qu'on appelle la cancel culture, le soft totalitarisme du 21e siècle, où l'on accuse certaines personnes de crimes de pensée, c'est-à-dire qui n'est pas acceptable et encourage une pensée unique. Pensée unique. Si on ne pense pas comme on doit penser aujourd'hui, alors on est mis sur le banc des accusés. Il appelle cela également le libéralisme moderne, où Dieu n'a plus de place et que l'objectif, c'est de se libérer de toute contrainte, obligation non choisie. Il y a aussi le phénomène de la woke culture. Si tout ça, ça vous paraît exotique, je nous encourage à prendre le temps de mettre des mots derrière, de comprendre ce qui est en train de se passer. On n'a pas le temps de tout développer, mais c'est le monde dans lequel on est. Il y a 20 ans, il y a Alfred Kuhn qui a écrit ce livre « Le monde postmoderne ». Et aujourd'hui, dans les écoles bibliques, bon, d'abord, il est plus édité, mais on recherche des livres de référence pour comprendre le monde dans lequel on est. Et le monde dans lequel on est, c'est plus le post-modernisme, mais c'est le post-chrétien. C'est ces réalités-là. Certains ont appelé ça une culture thérapeutique. La culture thérapeutique, le péché ultime dans cette culture-là, c'est de s'opposer à la liberté qu'a autrui de trouver le bonheur comme bon lui semble, quoi qu'il en coûte. Ça veut dire qu'à tout prix, le plus important, c'est que je me sente bien. Peu importe le reste. Peu importe le reste. Alors bien sûr, pourquoi on dit ça ce matin ? Parce que ça peut nous influencer en tant que chrétiens. Et on se rend compte que les générations passées de chrétiens, eh bien, étaient dans une persévérance souffrante quelquefois, et ça faisait partie de la vie chrétienne normale. Dans certains pays, ils n'ont pas oublié cette réalité là où il y a l'Église persécutée. Ça coûte d'être chrétien. Ça coûte de s'engager. Ça coûte de croire. Mais pas seulement de croire, ça coûte de s'engager. Parce qu'ils risquent leur vie, ils risquent le rejet. Et à ce moment-là, c'est une réalité. Mais nous sommes dans cette culture, même si ça vous paraît exotique, prenez le temps de chercher, de développer ça. Parce que c'est la société dans laquelle on est. Et on a besoin de faire ce travail de mémoire, de se rappeler de ce que la parole de Dieu dit. Parce que le monde change, mais la parole de Dieu ne change pas. La façon de vivre, évidemment, on n'est plus comme du temps d'Élie dans le désert, on ne mange pas, plus des sauterelles, on n'est plus habillé pareil. Mais les réalités de la parole de Dieu restent. Et si nous ne nous alignons pas sur ces réalités, eh bien, quelle que soit notre expérience, quel que soit notre arrière-plan, eh bien, on va le payer cash. La parole de Dieu nous dit, c'est Pierre qui nous dit cela, dans 1 Pierre 4, 1 à 3, il est dit ainsi donc, puisque Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. Et il continuera, il va dire en effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché, afin de ne plus suivre le temps qui lui reste à passer dans son corps, selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Il y a une réelle, je dirais, pression aujourd'hui pour vivre notre vie chrétienne avec le moins de souffrance, le moins de contraintes, où j'ai besoin de me sentir bien. Alors bien sûr que Dieu, en Dieu, on a cet épanouissement. Dieu est un Dieu d'amour. Je n'ai pas trouvé encore mieux sur la terre que d'être dans cette relation avec mon Dieu. Rien. Je n'ai pas trouvé mieux que de le servir. Je n'ai pas trouvé mieux, même si ça engendre des souffrances, des fois des choix difficiles, je n'ai pas trouvé mieux. Parce que Dieu est tellement bon. Mais en même temps, au sein, et on va le voir maintenant dans les exemples de la parole de Dieu, cette nécessité de mémoire, cette nécessité de se souvenir est essentielle dans la parole de Dieu. Notamment, on l'a dit dans ce texte de Deutéronome 8, premier exemple. Ici, on est dans ce contexte où Dieu parle à son peuple juste avant qu'il ne rentre dans le pays promis. Il y a un héritage, il y a des promesses. Quelles sont les promesses que Dieu nous a faites? Quelles sont ces promesses? Et juste avant de rentrer dans le pays promis, Dieu va leur dire, au travers de Moïse, il va leur dire, regardez au verset 2, « Souvenez-vous de tout le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert. » Verset 10, « N'oubliez pas le Seigneur votre Dieu. » Un peu plus loin, « N'oubliez pas le Seigneur votre Dieu. » Verset 18, « Rappelez-vous. » Verset 19, « Si vous oubliez le Seigneur votre Dieu. » Alors, vous disparaîtrez. Ici, il y a comme un appel de Dieu à nous dire, mais souviens-toi, n'occulte pas même les difficultés que tu as pu vivre. Ici, par exemple, nous sommes dans le passage où le peuple de Dieu est dans le désert. Il a connu la souffrance, la faim, il a connu l'insécurité, il a connu les serpents. Et voilà que Dieu lui dira, juste avant d'entrer dans son pays promis, de dire, mais souviens-toi du chemin que tu as parcouru pendant ces 40 années. Et premier exercice que l'on peut faire, peut-être pas tout de suite, mais dans cette semaine, d'écrire tout le chemin parcouru et toutes les difficultés que l'on a pu rencontrer. Des fois, on a tendance à mettre ça sous le tapis, à l'oublier, à plus y penser, parce que c'est trop douloureux. Mais Dieu nous dit, mais non, au contraire, prends ce temps, écris-les. Prends ce temps de dire quelles ont été tes difficultés, quelles ont été tes souffrances, quelles ont été tes peurs, quelles ont été tes colères. Repense à tout cela, regarde le chemin parcouru, regarde tout ce que tu as pu vivre. Pourquoi c'est important? Parce qu'en même temps, en Dieu, nous pouvons nous rappeler toutes les fois où Dieu a pourvu, toutes les fois où Dieu nous a encouragés. Toutes les fois où, comme un père, il nous a repris. Et quand Dieu nous reprend, c'est pour que nous ayons la vie. Merci Seigneur pour toutes les fois où Dieu m'a dit, mais là tu fais faux, reviens dans ma présence, remets ta vie en règle. Je bénis Dieu pour cela, parce que j'ai pu bénéficier ensuite de ce contact, de cette relation. Bien sûr, Dieu est toujours présent, mais le péché met un frein, le péché met comme un obstacle. Il met cette espèce de fossé, et Dieu est toujours là, mais nous sommes coupés de sa présence. Et lorsque l'on pense à toutes ces difficultés, eh bien, la réalité... Il le dit, regardez au verset, un petit peu plus loin, verset 3. Il dira, oui, tu as connu des difficultés, tu as eu faim, mais souviens-toi, Dieu t'a nourri de la manne, Dieu a ouvert le rocher dans le désert, et pourquoi il a fait ça? Pour que tu comprennes, pour que tu apprennes, c'est une éducation de la part de Dieu, pour que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme et la femme vivent de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Quand on est dans les difficultés, quelquefois, c'est presque plus facile de chercher Dieu parce qu'on sait que de toute façon, on a besoin de lui. Il y a deux possibilités dans la difficulté. Soit j'abandonne la foi, soit je persévère et je m'accroche. Et je dis, je sais que mon Dieu, même dans la difficulté, est fidèle. Et quand il agit, quand il parle, quand il nous communique ce dont on a besoin et qu'on y repense, le diable met devant nos yeux tout ce qui est difficile, les difficultés, les souffrances. Et Dieu nous dit, mais rappelle-toi de quelle manière ton Dieu, mon Dieu, a pourvu dans le désert. Peut-être pas tout de suite. Et là, ça a duré 40 ans. Des fois, on dit, mais pourquoi Dieu agit pas maintenant ? Vite, vite. Mais dans la difficulté, il y a comme une éducation, une transformation, un travail dans notre cœur. Et c'est là où ça prend son sens, de comprendre la culture dans laquelle on est. La cancel culture, la woke culture, toute la culture thérapeutique, où il faut que tout aille bien, tout vite, et que si ça ne va pas, c'est que ce n'est pas normal. On a besoin vraiment de comprendre que notre Dieu prend son temps. Et il dira, n'oubliez pas le Seigneur, lorsque tout ira bien. Des fois, c'est compliqué quand on est dans la difficulté, mais c'est encore plus compliqué quand tout va bien. Parce que quand tout va bien, on n'a plus besoin de Dieu. Et Dieu d'un seul coup dit, hop, attends, moi j'ai vécu ça relativement récemment, dans un domaine de ma vie. Je dis, ok, ça marche bien, c'est très bien, tout va bien. Et j'avais juste oublié une chose, c'est que quand tout va bien, c'est par la grâce du Seigneur. C'est par sa grâce, c'est par sa bonté, c'est parce qu'il est là. Et d'un seul coup, ça n'allait plus bien. D'un seul coup, j'ai dit, ah mais oui, c'est vrai que ce n'est pas normal. Ce n'est pas acquis, ce n'est pas par mes forces, ce n'est pas parce que je suis meilleur, mais c'est parce que Dieu est bon pour ceux et celles qui le craignent. Et juste, j'ai besoin de m'en rappeler. Alors, quelque part, de se rappeler que notre Dieu est notre libérateur, de se rappeler que Dieu est celui qui pourvoit dans les difficultés, de se rappeler que ce n'est pas par nos efforts, par notre connaissance, par notre savoir-faire. Quand on arrive dans la foi, c'est plus facile pour vivre le miracle de Dieu, parce qu'on sait qu'on a tout à apprendre. Mais quand on commence à savoir, c'est là que ça devient compliqué. On commence à décortiquer. Moi, quand je suis sorti de l'école biblique par la première, pas à la deuxième, mais la première, je suis arrivé dans l'église. Et vous savez, il y avait l'ordinateur, il y avait l'analyse, il y avait le scanner. Et c'était comme une seconde nature. J'écoutais, je regardais, je dis, ah non, mais il y a ça. Oh, attends, halte au feu là, reviens, pose tout ça. Et reviens avec un cœur d'enfant. Parce que ce n'est pas par ton savoir-faire, mais c'est parce que Dieu est là. Alors, le deuxième exemple, c'est plutôt là qu'il faut que je fasse, ouais, c'est Esdras. Connaissez ce texte ? On est dans quel thème ce matin ? Quel est le centre ? Quel est le but de ce partage ? La nécessité de mémoire pour vivre maintenant et demain différemment. On le redit ensemble ? La nécessité de mémoire pour vivre maintenant et demain différemment. La mémoire. Regardez dans ce texte d'Esdras 10 à 13. Le contexte ici, c'est quoi ? C'est le temple de Zorobabel reconstruit après l'exil du peuple de Dieu. Ils ont été en exil, ça a été compliqué. Ils ont presque failli tout perdre d'ailleurs. Les promesses, voilà, c'est une période compliquée. Et voilà que Dieu les ramène par sa grâce dans le pays promis et ils vont reconstruire le temple. Et le temple, ce n'est pas juste un bâtiment, ils vont reconstruire, ils vont rétablir, restaurer le lieu de la rencontre, le lieu d'adoration, le lieu où le peuple rencontre Dieu. Et ça, c'est important. Et voilà que le texte nous dit, lorsque les maçons posèrent les fondations du peuple, du temple de l'Éternel, on disposa les prêtres en costume, les trompettes, les lévites descendants d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrèrent l'Éternel d'après les directives de David, roi d'Israël. Ça devait être quelque chose. Et puis, ils se répondaient, louaient, célébraient l'Éternel. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement pour Israël. Tout le peuple poussait des grands cris de joie en louant l'Éternel, parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. C'est super, hein ? Amen. Ça devait être enthousiasmant. Amen. C'était super. Cependant, j'aime bien la parole de Dieu, il y a des cependant, néanmoins. Cependant, beaucoup parmi les prêtres, les lévites et les chefs de familles âgées qui avaient vu le premier temple pleuraient tout haut pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de celui-ci. Comme beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie de celui qui, des pleurs du peuple. Et on ne pouvait pas distinguer les cris de joie de celui des pleurs du peuple. En effet, ils poussaient de grands cris qu'on entendait au loin. Vous imaginez si on vivait ça ici, au centre de Bussigny, on pourrait entendre ceux qui se réjouissent et puis d'autres qui pleurent. Ici, le souvenir peut amener deux réactions différentes selon notre histoire et selon notre compréhension. Des fois, quand on vit des réunions, ou quand on vit des événements, on vit des évangélisations, on vit des choses, des fois, quand j'entends le retour, soit de mon retour, ou soit le retour d'autres personnes, je me dis des fois, mais on était à la même réunion, là. T'es sûr qu'on était à la même réunion? Et là, ils ont pu se le dire. Certains étaient joyeux, enthousiastes. Et on peut les comprendre. Pour quelle raison, à votre avis, ils étaient enthousiastes? Parce qu'après tout ce temps en captivité, de voir la restauration, mais c'était joyeux, c'était extraordinaire. Pourtant, c'était que les fondations. Ils étaient remplis de joie. Et puis, ceux qui pleuraient, est-ce qu'on peut les comprendre? Oui, moi je pense qu'on peut les comprendre. Pourquoi ils pleuraient? Parce que eux savaient ce qu'ils avaient perdu. Ils savaient ce qu'ils avaient vécu du temps du temple de Salomon. Ils avaient vécu des choses extraordinaires. Ils avaient vécu un temple qui était beaucoup plus beau que celui-ci. Et donc, quelque part, on peut comprendre. Et on pourrait tomber dans une espèce de caricature de dire ceux qui étaient enthousiastes, ceux qui se réjouissaient, auraient pu regarder ceux qui pleuraient avec mépris en disant « vous n'avez rien compris, vous êtes bloqués sur le passé ». Et puis ceux qui pleuraient auraient pu regarder ceux qui se réjouissaient en disant « mais vous êtes, oh, calmez-vous les jeunes. Attends, vous ne savez pas ce qu'on a vécu nous, quoi. » Comment régler ce conflit? Comment régler cette tension? Comment le régler? Eh bien, à mon avis, par deux choses. Parce que c'est aujourd'hui ce que l'on vit aujourd'hui. Hein. Là, je parle dans l'Église en général. On est dans une autre étape, on est dans un autre contexte. Et il y a des choses qui viennent comme des fondations, il y a des choses qui commencent à naître ou à renaître. Et parmi certains d'entre nous sont très très enthousiastes en se disant « Gloire à Dieu, merci Seigneur pour ce qu'il fait ou ce qu'il redonne. » Puis il y en a certains, moi vous savez, ça fait des années que je suis converti. Et quand je regarde l'Église, de temps en temps, je peux tomber dans ce piège de dire « Waouh, mais comment vivre en étant content aujourd'hui par rapport aux choses fortes qu'on a pu vivre dans le passé ?» Mais comment gérer ça? Comment le gérer? Alors, à mon avis, par deux choses qui sont fondamentales au niveau de l'Église. La première, c'est de comprendre ceux qui pleurent. Et puis pour ceux qui pleurent, de comprendre ceux qui se réjouissent. C'est de s'arrêter, de dire, mais je veux comprendre ce qui est en train de se passer. Et je veux respecter mon frère et ma sœur dans sa réalité. Et vous savez restez avec moi, vous savez ce qui va mettre tout le monde d'accord ? C'est lorsque Agé va dire de la part de Dieu, il va dire au chapitre 2, verset 9, il dira « La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. » Ce qui va mettre tout le monde d'accord, c'est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Dans le contexte d'Esdras, dans le contexte du temple de Zorobabel, la parole de Dieu, c'est de dire l'Éternel voit plus loin que ce que nous on peut voir. Oui, c'est vrai que le temple de Salomon était plus beau. C'est vrai qu'il y avait une gloire qui n'était pas vraiment extraordinaire. Mais par rapport au péché, par rapport à l'idolâtrie, il y a eu le départ en exil. Il y a eu de la destruction, il y a eu des choses qui ont été perdues par le peuple de Dieu. Et voilà que Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa grâce, va permettre que son peuple ou le reste revienne dans son pays et reconstruise le temple. Et vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Quand il est parlé de la gloire de l'Éternel qui sera plus grande que celle du premier temple, il est en train de parler de l'Église de Jésus-Christ. Il est en train de parler du temple que nous sommes, le temple du Saint-Esprit, où Christ a tout accompli au travers de son œuvre à la croix. Et aujourd'hui, dans le monde entier, où est le temple? Il est dans tous les pays, il est dans tous les villages, il est dans partout où des hommes et des femmes, des jeunes, ont reçu Christ comme leur sauveur et sont remplis du Saint-Esprit. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ça me réjouit, parce que je vois que Dieu est à l'œuvre partout et rien ne peut l'arrêter, même dans les pays persécutés. Le temple de l'Éternel, la gloire du temple qui arrive est plus grande, plus glorieuse. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité, parce qu'il est à la droite de Dieu le Père et qu'il a envoyé le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit. Et il nous amène à louer Dieu comme on l'a fait tout à l'heure. Il nous amène à lire la parole, à la comprendre, à la pratiquer. La gloire du dernier temple sera plus grande que la gloire du premier temple. Amen. Gloire à Dieu. Alors ça, c'était compliqué pour eux de comprendre à ce moment-là. Mais ce qui est possible, ce qui rassemble encore aujourd'hui l'Église de Christ, entre ceux qui se réjouissent des prémices et ceux qui pleurent du passé, c'est ce que Dieu dit aujourd'hui pour l'Église de Jésus-Christ. La Bible nous dit que dans les temps de la fin, il y aura de plus en plus de difficultés, plus en plus d'oppression, beaucoup plus de choses qui vont se lever, d'opposition. Et en même temps, la Bible nous dit que pour ceux et celles, ou celles et ceux, qui font ce travail de mémoire, qui font ce travail de se rappeler la parole de Dieu, de revenir à la parole de Dieu, de revenir, de la lire, de prier, de la comprendre, eh bien, ça, c'est ça qui nous rassemble. Le respect réciproque et la compréhension du plan de Dieu pour nous aujourd'hui. C'est ça qui va nous permettre de continuer. Et heureusement qu'ils ont continué, parce qu'ils ont préparé la venue du Messie. Ça, c'est glorieux. Amen. Alors, j'ai encore 3 points et je vais en enlever 2, parce que je voudrais qu'on puisse prier. Je vous laisserai regarder, c'est par ici. Dans Ésaïe 43, d'une manière paradoxale, dans cette nécessité de mémoire, quelquefois Dieu nous demande de ne plus nous souvenir des choses qui se sont passées dans le passé. On l'a lu hein, depuis le début de l'année, ce texte, Ésaïe 43, où il est dit, Dieu parle au travers d'Ésaïe et il dira, ne pensez plus au premier événement, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien, je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe, ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert, mettre des fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans les endroits arides, pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Ça, c'est le programme de Dieu pour nous aujourd'hui. Nous sommes peut-être dans des lieux arides. Peut-être que nous sommes de ceux qui pleurent, ou qui se lamentent, ou qui n'y croient plus, parce qu'on a vécu des choses difficiles. Mais Dieu nous dit, aujourd'hui, par son Saint-Esprit, voilà que j'ouvre pour toi un chemin nouveau, j'ouvre pour toi une eau nouvelle qui rafraîchit. Esprit de Dieu, viens. Saint-Esprit, viens. Nous sommes ton temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens comme cette eau qui rafraîchit, qui renouvelle, qui nous communique ce dont on a besoin. Et puis, il rappelle, Dieu, pour le coup, va dire, mais ne pense plus aux choses négatives. Laisse-toi guérir dans tes pensées. On va prier pour ça tout à l'heure. De laisser Dieu nous guérir dans notre souvenir. De nous guérir par rapport au passé. Et puis, la pédagogie de Dieu, c'est de dire le bon diagnostic, verset 22. Je ne suis pas dans le bon texte, hein, apparemment. Si. Ça, c'est mieux. Hein. Regardez au verset 22, il dit, ce n'est pas à moi que tu as fait appel. Il rappelle finalement le mandat, l'appel de Dieu. Et puis, Dieu fait un diagnostic assez étonnant, regardez au verset 22. Il y a une espèce de dialogue qui s'instaure là entre le peuple et Dieu. Et il dira, mais en fait, tu n'as pas fait appel à moi. Pourtant, il y a un mandat sur ta vie. Tu t'es fatigué de moi, Israël. Tu t'es fatigué. Comment on peut être fatigué de Dieu en disant, mais ok, j'ai vécu des choses fortes, mais en fait, j'y crois plus, quoi. Je suis fatigué de l'Église, fatigué de prier, fatigué des messages que j'entends. Je suis fatigué. La réalité, c'est que quand on est dans ce diagnostic-là, alors Dieu dira, regardez au verset 23, il dira, mais je ne t'ai pas importuné pour que tu me fasses des offrandes, je ne t'ai pas fatigué pour recevoir de l'encens. Dieu n'est pas un mendiant. Il ne va pas dire, mais je te mets un pressing terrible sur toi pour que tu changes. On sent ici le cœur du Père. C'est comme si le Père disait, mais je ne veux pas te forcer, mais j'ai un amour éternel pour toi. Et ce que j'étais appelé à faire, eh bien reste et demeure. Mais simplement, tu t'es fatigué de moi, mais moi, je ne t'ai pas forcé, je ne veux pas te forcer la main. Mais c'est comme une invitation. Et l'invitation, on la voit dans ces autres textes que vous avez vus ici, où il est dit, regardez le texte du bas, Isaïe 49, où il dira, mais Sion, c'est-à-dire peuple de Dieu, église de Christ, certains disent, mais l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Quelqu'un dit ça? Ne répondez pas. Hein. Le Seigneur m'a oublié. Je prie, ça ne marche pas, je ne vois pas d'exaucement. Les autres sont bénis, mais Dieu m'a oublié, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu dira, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle t'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé dans mes mains. Moi je ne t'oublie pas, je ne t'ai pas oublié. Et je ne t'oublierai pas, Dieu ne nous oublie pas. Il nous connaissait dans le ventre de notre mère. Par contre, ce qu'il choisit d'oublier volontairement, ce sont nos péchés, nos transgressions. Il dira, d'une manière prophétique, ça va s'accomplir au travers du sacrifice de Christ, il dira, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu est omniscient, il sait tout, mais choisit de ne pas se souvenir de nos péchés, parce qu'il a ce désir. Et il dira, mais réveille ma mémoire, plaide, parle toi-même pour te justifier. Il dira, mais viens, repens-toi, fais appel à moi et j'agirai. On est là, ouais, c'est bon. C'est terrible, hein, c'est PowerPoint. Si tu peux mettre, s'il te plaît, la slide avec Ésaïe 51, si c'est possible. Ésaïe 51, je finirai avec ça. C'est Ésaïe 51, verset 1, il dira, mais c'est Dieu qui parle, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez le Seigneur, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la tranchée d'où vous avez été tiré. Et il dira aussi dans Apocalypse 2, au verset 5, il dira, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Dans cette nécessité de mémoire, ce qui nous aide, c'est deux choses. C'est la première, c'est de se souvenir de qui est Dieu. C'est de se souvenir de qui est Dieu. Comment on se souvient de qui est Dieu en lisant sa parole, en se souvenant, écrivons les interventions de Dieu dans notre vie, écoutons des témoignages des frères et sœurs, lisons des livres qui sont des livres de témoignages de ce que Dieu fait. Soyons nourris de cela, prenons le temps. Et comme si Dieu nous invite à nous souvenir de qui il est, qui est notre Dieu. Comment savoir? Eh bien, au travers de toutes ces lectures-là. Et puis en même temps, souviens-toi d'où tu es tombé. Ça veut dire quoi? En grec, c'est tu étais dans une position élevée, La Bible nous dit de chercher les choses d'en haut, et à un moment donné, on a abandonné parce qu'on ne s'est pas aligné avec la parole de Dieu, et ça a amené comme une espèce de, comment on dit, où on s'endort tranquillement. Et puis, là, quand il parle à cette église, c'est une église qui a 30 ans d'existence. On est dans les années 90, l'église est née dans les années 60, 30 ans, et en 30 ans, il y a eu une déclinaison progressive. Et Dieu nous dit, mais reviens, souviens-toi, fais ce diagnostic, rappelle-toi, fais ce travail de mémoire pour qu'on puisse poser un diagnostic juste afin que le divin médecin puisse venir et agir dans notre vie, dans notre cœur. On va prier pour ça. On va prier pour ça. Il y a je vous propose deux axes de prière. Soit de se souvenir maintenant, mais dans la semaine, dans cette semaine, d'écrire tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Je propose qu'on puisse se souvenir des bonnes choses que Dieu a faites. Quand il nous a parlé, écrivez des versets qui vous ont parlé. Pourquoi ? Pour que la foi soit réactivée, pour qu'on soit encouragé. Partagez-le aux autres, parce que ça, c'est extraordinaire. Une nécessité de mémoire, une nécessité de se rappeler la parole de Dieu. Et puis, le deuxième axe de prière. Certains sont enthousiastes et certains pleurent. Et en même temps, Dieu nous appelle et nous invite à nous souvenir du chemin parcouru et des difficultés, des choses qui sont souffrantes. Et puis, de les remettre, de les déposer au Seigneur. On va avoir ce temps de Sainte-Seine, je vais laisser la place à Daniel, mais dans ce temps-là, eh bien qu'on puisse déposer les choses difficiles et de croire que Dieu est Dieu et qu'il est capable de changer, qu'il est capable d'intervenir, qu'il est le Dieu des miracles, de le croire. Et vous savez quoi ? J'ai remarqué, j'ai réalisé que ça ne suffit pas de venir devant Dieu et de dire « Voilà, ça m'a fait souffrir, je pardonne à celui qui m'a offensé. Voilà, j'ai raté tout un pan. » Vous savez, ceux qui pleuraient, c'est parce qu'ils étaient conscients qu'ils avaient raté peut-être 70 ans de leur vie en captivité. Et ils pleuraient à cause de ça. Et même si on a perdu du temps, eh bien devant Dieu, Dieu est capable de racheter le temps. Dieu est capable de nous redonner ce que la sauterelle a dévoré. Et vous savez comment on peut faire ? Pas seulement de dire ça à Dieu, mais c'est aussi de se mettre en marche. Certains sont là et sont dans une espèce de bug spirituel, une espèce de labyrinthe en disant « Pauvre de moi, Seigneur, viens agir, viens me guérir. » Mais c'est la réalité, il y a une vraie souffrance. Hein. Mais viens Seigneur, viens me toucher, viens, je te remets ça. Et vous savez, des fois ça ne marche pas, vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a besoin de sortir de ce pays d'exil et de revenir et de construire et de bâtir. On a besoin de continuer à marcher, on a besoin de continuer non seulement à louer Dieu, à lire la parole de Dieu, à le servir. Et c'est dans le service. Certains disent, je vais prendre du recul. Quand j'entends ça, je dis attention. Oui, on peut prendre du temps de réflexion. Mais soyons comme le vélo dans la roue de notre champion. Et continuons à avancer, sinon on tombe. On prie ensemble ? Merci Père pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu fais aujourd'hui dans nos cœurs. Et je prie maintenant pour chacun d'entre nous. Et je prie que nous puissions non seulement maintenant, mais dans les jours qui arrivent, nous souvenir de ce que tu as accompli dans nos cœurs et dans nos vies, de les noter, de les marquer et de te louer pour cela. Et que ce soit un encouragement de nous rappeler cette nécessité de mémoire pour vivre maintenant et demain différemment. De dire à Dieu, mais Seigneur, si tu as agi dans le passé, je crois que tu ne m'oublies pas et que tu es fidèle et que tu vas continuer. Je veux le croire et je le saisis et je m'aligne avec cela. Et puis, Père éternel, nous te remettons tout ce qui a été douloureux dans le passé. Tout ce sentiment d'avoir échoué, d'avoir perdu du temps, d'avoir fait des mauvais choix. Mais Père, tu permets que nous soyons là dans ta présence. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et tu nous parles et tu traites aussi toutes ces blessures du passé par ton sang précieux, par ton Saint-Esprit. Et tu es capable de guérir nos souvenirs, de guérir nos sentiments, de guérir et de restaurer, et de nous communiquer cette force nouvelle, cette motivation nouvelle pour se lever et pour continuer à avancer et pour ne pas tomber, pour être dans la roue du champion qui est Jésus-Christ. Père éternel, maintenant agis dans nos cœurs, non seulement maintenant, mais dans les jours qui arrivent. Et je prie aussi pour nos amis, pour des amis peut-être qui sont dans ce lieu ou sur Internet, qui ne connaissent pas encore Dieu, qui ne connaissent pas Christ. Et peut-être que vous avez des souvenirs de l'Église, des souvenirs des autorités peut-être de l'Église qui vous ont blessé, qui vous ont heurté, notamment quand vous étiez petit, et ça concerne quelqu'un, une personne au moins, ou quand vous étiez petit, vous avez vu des choses qui ont mis un obstacle entre vous et Dieu. Et vous vous êtes dit, mais si c'est ça l'Église, si c'est ça Dieu, j'en veux pas, je n'en veux pas. Mais maintenant, je voudrais vraiment te dire de la part du Seigneur, Dieu, ce n'est pas l'Église. Dans l'Église, il y a des hommes et des femmes qui sont imparfaits, imparfaites. Mais Dieu est parfait et il veut se manifester dans ta vie. Ne perds pas l'éternité, ne permets pas aux circonstances de changer ton éternité. Et que nous sommes, maintenant que nous sommes dans la présence de Dieu, eh bien, ouvre ton cœur et dis-lui, je veux te connaître, je veux te donner ma vie, je te demande pardon pour mon péché, je te demande pardon pour ma vie passée, et je veux te connaître toi, éternel, je veux te connaître toi, Seigneur. Merci pour le sang de Christ qui purifie, qui pardonne mon péché, et je veux marcher pour toi. Révèle-toi à moi, Seigneur, à toi la gloire, l'honneur et le règne, que ton nom soit glorifié, Père. Nécessité de mémoire pour vivre maintenant et demain, différemment. On va vivre ce temps de Sainte-Seine, je laisse la place à Daniel. Et dimanche prochain, on continuera sur cette thématique, particulièrement concernant l'invitation du Seigneur à vivre la Sainte-Seine. Faites ceci en mémoire de moi et on va voir ce que ça signifie.